10h34.
Chapitre 15. Soupe de poisson.
Il était assez tard ce soir-là quand notre petit goémon vint tranquillement mouiller son ancre et nous débarqua, Quicked et moi. Il ne nous restait donc qu'à nous occuper de trouver un dîner et un lit. Le patron du Souffle de la Baleine nous avait recommandé son cousin, Osée Hussé, propriétaire du Tape-Pot, qu'il nous assura être l'un des hôtels les mieux tenus de Nantucket, en ajoutant que le cousin Osée, comme il l'appelait, était célèbre pour ses soupes de poisson. Bref, il déclara sans embâge que nous ne saurions mieux faire que d'aller dîner à la Fortune du Pot, au Tape-Pot. Mais les indications qu'il nous avait données concernant le chemin à suivre, garder un entrepôt jaune à tribord jusqu'à ce qu'on remarque une église blanche à bâbord, puis rester sur le côté de bâbord jusqu'à un angle de rue à trois points de tribord et là demander au premier passant où était l'auberge, ces indications tortueuses nous déconcertèrent d'abord énormément car, depuis le début, Quicked soutenait que l'entrepôt jaune, notre point de départ, devait être par bâbord, alors que j'avais compris, moi, que Peter Coffin avait dit qu'il était par tribord. Quoi qu'il en soit, après avoir quelque peu louvoyé dans le noir et frappé à deux ou trois portes paisibles pour demander notre chemin, nous parvînmes à un bâtiment dont l'identité ne faisait pas l'ombre d'un doute. Deux énormes pots de bois peints en noir étaient suspendus par leurs oreilles aux barres d'un vieux mât de hune fiché sur le seuil d'une antique maison. Les cornes des traverses étaient sciées à l'autre bout, ce qui ne laissait pas de donner à ce vieux mât de hune l'allure d'une potence. J'étais peut-être à l'époque un peu trop sensible à ces sortes d'impressions que je ne pouvais m'empêcher de fixer cette potence avec une vague inquiétude. J'attrapais le torticolis à force de tenir la tête levée vers les deux cornes restantes. Oui, deux cornes, l'une pour Quicked, l'autre pour moi. Sinistre présage, pensais-je. Un aubergiste au nom funèbre, quand je débarque dans mon premier port, baleinier, des plaques funéraires qui me dévisagent dans la chapelle des baleiniers, et maintenant une potence. Et une paire de peaux noires gros comme des chaudrons. Ces derniers ne constituaient-ils pas une allusion voilée au feu de Toffé? Je fus tiré de ces réflexions par la vue d'une femme à la tignasse jaune et au visage couvert de taches de rousseur, qui portait une robe jaune. Elle se tenait sur le pas de la porte de l'auberge, sous la lueur rougeâtre d'une lampe qui se balançait là, pareille à un œil blessé, et elle tançait d'importance un homme en chemise de laine violette. « Fichez-moi le camp !» disait-elle à l'homme. « Ou je m'en vais vous étriller !»« Viens, Quicked, dis-je, nous y sommes. Tant de poigne et d'autorité, ce doit être Madame Hussé. » C'était bien elle, en effet. Monsieur Osée Hussé, absent, avait laissé à Madame Hussé entière liberté pour conduire ses affaires. Lorsque nous l'eûmes informée de notre désir d'avoir un dîner et un lit, Madame Hussé, remettant la suite de ses remontrances à plus tard, nous fit entrer dans une petite salle et nous asseoir à une table jonchée des reliefs d'un repas récemment achevé. Puis elle se tourna vers nous et demanda « Palourde ou morue ?»« Des morues ? Que voulez-vous dire, madame ?» en quis-je du ton le plus poli. « Palourde ou morue ? » répéta-t-elle. « Une palourde pour le souper ? Une palourde fraîchement ramassée ? Avons-nous bien compris, Madame Hussé ? » dis-je. « C'est là une bien fraîche réception pour un soir d'hiver, ne trouvez-vous pas, Madame Hussé ? » Mais comme elle était fort impatiente de reprendre ses semonces à l'endroit de l'homme à la chemise violette, qui d'ailleurs les attendait dans l'entrée et qu'elle ne semblait avoir entendu que le seul mot « palourde », Madame Hussé se précipita vers une porte ouverte qui menait à la cuisine et brailla « Une palourde pour deux !» et disparut. « Quicked, dis-je, crois-tu que nous pourrons dîner d'une palourde pour deux ?» Mais une vapeur venue de la cuisine et chargée d'odeurs délectables démentit bientôt une perspective qui s'annonçait peu réjouissante. Et lorsque parut la bouillabaisse fumante, le mystère reçut une délicieuse explication. Ah, mes doux amis, ouvrez toutes grandes vos oreilles. Cette soupe était faite de petites palourdes juteuses, à peine plus grosses que des noisettes, mélangées à du biscuit de mer écrasé et à du porc salé coupé en fines tranches. Le tout enrichi de beurre et généreusement assaisonné de poivre et de sel. Nos appétits avaient été aiguisés par la glaciale traversée et Quickhead voyait arriver devant lui son plat de mer favori. Cette bouillabaisse, superlativement excellente, fut expédiée avec la plus extrême célérité. C'est alors que, renversé un instant sur mon siège et songeant à la formule de Madame Husset, palourde ou morue, il me vint l'idée de tenter une petite expérience. J'allai jusqu'à la porte de la cuisine, prononçai le mot « morue » avec force et revins à ma place. Quelques instants plus tard, parvenait jusqu'à nous cette même délectable vapeur, mais avec un fumet différent, et une magnifique soupe de morue fut bientôt placée devant nous. Nous nous remettons au travail, et tandis que nous jouons de la cuillère dans nos assiettes, un soupçon me traverse l'esprit. Est-ce que ce plat ne risque pas de nous monter à la tête ? Certains dictons affirment d'un homme qui divague qu'il résonne comme un coquillage. Là, regarde Quickhead, on dirait une anguille vivante dans ton assiette. Où est ton harpon ? Le tapot était plus poissonneux que la plus poissonneuse des halles et l'endroit méritait bien son nom, car dans ses pots et marmites, la soupe de poisson mijotait sans discontinuer. Soupe de poisson au petit déjeuner, au dîner et au souper. On finissait par sentir des arêtes transpercer l'étoffe de ses vêtements. Tout le devant de la maison était pavé de coquilles de palourdes. Madame Husset portait un collier de vertèbres de morue polie et Osée Husset avait fait relier ses livres de comptes en peau de requin de qualité supérieure. Le lait avait un arrière-goût de poisson que j'étais incapable d'expliquer jusqu'à ce qu'un beau matin, me promenant sur la plage parmi les barques des pêcheurs, je visse la vache bringée d'Osée qui mangeait des restes de poisson et trottinait sur le sable, ses sabots chaussés d'une tête de morue décapitée. Quelle allure débraillée ! Le souper achevé, nous reçûmes de Madame Husset une lampe et des instructions relatives au plus court chemin pour nous rendre jusqu'à notre lit. Mais comme Quickhead s'apprêtait à me précéder dans l'escalier, la dame, le bras tendu, lui réclama son harpon. Elle n'autorisait pas les harpons dans ses chambres. « Pourquoi ? » demandai-je. « Un vrai harponneur dort avec son harpon. Pourquoi donc ?»« Parce que c'est dangereux, » dit-elle. Depuis que le jeune Stiggs est rentré de ce malheureux voyage de 4 ans et demi avec plus de 3 barils d'huile et qu'on l'a trouvé mort dans ma chambre de derrière au premier, le harpon dans les côtes, depuis ce jour, j'autorise aucun pensionnaire à emporter des armes aussi dangereuses dans les chambres la nuit. » C'est pourquoi, Monsieur Quickhead, elle avait appris son nom, je m'en vais vous prendre ce fer-ci et vous le garder jusqu'à demain matin. Mais pour la soupe, palourde ou morue au petit déjeuner, messieurs ? Les deux, répondis-je. Et ajoutez-y une paire de harengs fumés pour changer un peu.